Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. En 2013, après presque 60 ans de carrière, il se retrouvera dans la course aux Oscars grâce au court-métrage « Henri » de Jan Englund, dont il détiendra le rôle-titre. Au gré du temps, il a connu une carrière gigantesque, amorcée avec une troupe de théâtre amateur, la Compagnie des Sept. Très associé au théâtre du Rideau Vert, on le retrouvera aussi dans les feuilletons radiophoniques, les téléthéâtres et de nombreux téléromans, sans oublier bien sûr le cinéma. Il a su partager sa passion et son art en enseignant aux élèves du Conservatoire d'art dramatique du Québec. Un privilège que d'accueillir Gérard Poirier. Oui, un vrai privilège.
Mais je suis tout à fait ému. Il y en a trop, là. Non, je t'ai plu, la cour est pleine.
On a évoqué le théâtre du Rideau Vert.
Oui.
C'est une portion importante de votre vie.
Je dirais même qu'elle a été primordiale. Madame Palomino, Madame Brindamour, fondatrice, directrice du théâtre, m'ont fait confiance. Et ça, je leur dois beaucoup, parce que je n'ai pas fait d'école dramatique, pour la bonne raison qu'il n'y en avait pas. Le conservatoire, aussi bien que l'école nationale, n'existait pas avant que je devienne comédien
Est-ce
professionnel.
Est-ce que vous en étiez complexé?
Oui, oh oui, terriblement. J'ai été très complexé par... Et je savais qu'il me manquait des choses. Par exemple, la respiration. Comme je n'avais pas appris la technique respiratoire, je respirais mal. Et j'avais du mal, parfois en scène, à aller jusqu'au bout de ma phrase. Et ceux qui m'ont appris tout ça, ce sont mes aînés. J'ai joué avec M. François Roset, avec des gens comme ça. Et quand je n'étais pas en scène, j'étais en coulisses avec le texte en main et je l'écoutais respirer, si j'ose dire. Tous ces gens-là ne savent pas à quel point ils m'ont aidé. Ils ont été mes professeurs.
Et au Rideau Vert, vous avez joué de nombreux premiers rôles. Vous aviez le physique pour jouer les premiers
rôles. Je n'ai joué que des premiers rôles au Rideau Vert. Et encore une fois, je dois remercier Mme Brindamour de m'avoir fait confiance. Parce que j'avais des qualités, ça, je ne nie pas. Un physique agréable, une voix bien placée. Ça, je le dois. Parenthèse, parce que j'avais toute ma vie été dans les chorales de paroisse. Alors j'avais développé une voix chantée. C'est à peu près la même technique pour les voix parlées. Bon, où est-ce que j'en étais avec tout ça?
Mais sur le fait que vous avez joué des rôles
de premier plan, oui.
Qui peuvent à la longue être ennuyants cependant, parce que lorsqu'on est toujours l'amoureux qui courtise, on souhaite peut-être devenir un jour un personnage un peu plus vindicatif ou un méchant.
Oui, mais ça s'est produit,
oui.
Et je pense qu'il était inévitable que ça se produise, malgré tout ce que j'ai dit sur le Rideau Vert. Ça a été mon conservatoire, mon école et tout. Mais il est venu un moment où j'avais carrément l'impression de tourner en rond. Il fallait que j'aille voir ailleurs, de toute manière.
Et vous avez démissionné après...
Oui, ça a été très dur.
Difficile pour Mme Brindamour aussi.
Et pour moi aussi.
Et pour vous aussi.
Oui, ça a été très difficile.
On va se remémorer, si vous voulez bien, cette époque du Rideau Vert, parce qu'en 2013, on célébrait le 65e anniversaire de ce théâtre, et vous aviez enregistré, à ce moment, avec Mme Jeannine Suteau, une capsule qui faisait un peu la synthèse de ces belles années du théâtre du Rideau Vert.
Madame Brindamour m'a raconté un jour comment le théâtre avait été fondé. Elle m'a dit qu'un soir, dans un restaurant, il y a des comédiennes qui sont attablées. Madame Palomino est de la partie. Et ces comédiennes se plaignent amèrement de ne faire que de la radio, ce qui était vrai à l'époque. Hein. Et cher maître Palomino, qui avait toujours la solution, dit « Écoutez les filles, c'est très simple, cessez de vous plaindre et agissez. » Et Madame Brindamour m'a toujours dit « C'est la phrase qui a été le déclencheur. »
Un théâtre, pour que ça marche, il faut que ça soit une histoire d'amour. Bon, Yvette jouait, Madame Palomino administrait. c'était idéal. C'était quand même quelque chose à cette époque où vraiment il n'y avait rien. Enfin, presque rien.
Le Rideau Vert jouait surtout du théâtre léger, ce qu'on appelait à l'époque les pièces de boulevard. Mais il faut se rappeler ce qu'étaient ces années fin 40. Les auteurs québécois n'étaient pas nés, tout simplement. Et pour les acteurs, il n'y avait qu'une référence, c'était Paris. Le répertoire a évolué, je dirais, avec la société. On allait plus loin, on cherchait davantage. Il y a eu un grand moment dans l'histoire du Rideau Vert, ça a été La Reine Morte d'Henri de Monterland.
La Reine Morte, c'était magnifique. Yvette, qui était très, très bonne, et Gérard Poirier, qui était tellement beau, tellement beau.
Quand j'ai fait mes débuts professionnels, si l'on veut, en 1955, au Rideau Vert, j'avais dans les distributions autour de moi des aînés, des acteurs chevronnés. Et j'observais ces gens-là quand j'étais en coulisses et qu'eux étaient en scène. J'ai tout appris au Rideau Vert. Ça a été mon conservatoire, mon école.
Le théâtre du Rideau Vert, pour moi, c'est vraiment une source de bonheur et de joie, parce que j'ai été très, très, très heureuse au Rideau Vert. J'ai eu des très, très beaux rôles.
Il y a un auteur qui a fini par prendre sa place au Rideau Vert, c'est Anton Tchekhov. Et d'une façon spectaculaire.
C'est beau, le Tchekhov. Les personnages sont incroyables. Mais c'est difficile parce que c'est une espèce de mentalité entre les deux. C'est l'époque russe intermédiaire, hein, avant la Révolution.
Tchekhov a compris ce que son peuple devenait. Et c'est ce qu'il nous raconte beaucoup dans ses pièces, surtout La Cerisée, qui est une pièce d'une importance capitale, à mon avis, c'est sa meilleure pièce, celle qui résume toutes les autres.
Tchekhov, très important, donc, au Rideau.
C'est un auteur, pour moi, que je chéris. Je ne peux pas le dire autrement. Ça a été un être sans doute d'une sensibilité extrême, Tchekhov. Il a raconté son peuple, mais d'une façon incroyable. Les personnages de Tchekhov sont toujours enfermés dans quelque chose, les trois sœurs, enfin. Et ils veulent sortir d'eux-mêmes, sortir de leur milieu trop petit. Ils n'y parviennent pas, parce qu'ils n'ont pas la volonté réelle d'en sortir. Et c'est ce qui fait la richesse de ces personnages. Des personnages très solitaires, c'est assez bizarre à dire, mais ce sont des personnages qui ne s'écoutent pas vraiment. Ils ont en tête un cheminement de pensée qu'ils dévoilent au cours du texte, mais sans accorder beaucoup d'attention à ce que les autres autour de lui disent. C'est très particulier. Je ne connais pas d'autres auteurs qui agissent comme ça. Peut-être Ionesco, que j'ai joué aussi. Là,
le théâtre de l'absurde.
Les chaises, oui. Oui. Ça, c'est terrible, les chaises. J'ai joué ça avec Hélène Noiselle, très chère Hélène, grande comédienne. Et je dis donc qu'on avait cette impression. On disait des choses, mais on ne se répondait jamais. Jamais. Et alors, tout à coup, une chose qui avait été dite dans les deux premières minutes de la pièce rebondissait 35 minutes plus loin. C'est le texte, et pour Hélène, ça a été la même chose, le plus difficile à mémoriser que j'ai eu.
Parce que cette complicité dans le texte n'est pas présente.
Puis c'est très important au théâtre, ouais. Parce que on parle beaucoup, nous, dans notre jargon, de réplique parlante. C'est-à-dire que c'est très souvent le ou la partenaire qui nous donne le mot qui va nous permettre d'enchaîner. Mais quand ce mot-là ne vient pas, il faut être tout inventé soi-même.
Avez-vous l'impression que ces grands dramaturges n'ont plus droit de cité, qu'ils sont moins présents, qu'on ne les entend plus à travers le jeu des comédiens d'aujourd'hui?
C'est une très grave question là, que vous me posez. Je pense que On a très longtemps mal joué certains auteurs en leur prêtant des intentions qu'ils n'avaient pas, sûrement. Et quand on parle de la cerisée et de tout ça, c'est au fond très simple, mais il ne faut pas compliquer ce que l'auteur écrit.
Parce que vous me disiez aussi qu'il n'est pas facile d'être un bon dramaturge.
Oh non!
De grands romanciers se sont prêtés à l'exercice et n'ont pas réussi. Vous me mentionniez Balzac.
Exactement. Balzac a essayé à plusieurs reprises sans connaître aucun succès, absolument aucun. Et il était très jaloux de George Sand, qui, elle, écrivait des pièces de théâtre. Elle aurait pu en faire, je crois, que 4 ou 5 par semaine. Elle avait une facilité d'écriture désarmante. Évidemment, aujourd'hui, aucun théâtre ne mettrait à l'affiche les pièces de George Sand. Mais à son époque, ça a été des gros succès.
Vous avez joué aussi du théâtre de boulevard.
Oh oui, 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 mais c'est une très bonne école, le boulevard. Hein. Faut pas mépriser le boulevard. Et c'est une bonne école parce que il faut dire naturellement des choses comme « passe-moi le beurre » ou « j'aimerais une tasse de thé ». Faut donner un sens à ces choses banales. Oui. Et c'est aussi un théâtre qui oblige une diction parfaite et une articulation à tout casser. Parce qu'on ne parle pas dans une pièce de boulevard comme on va parler Racine. Ou même Molière. Il faut parler vite. Il y a du rythme. Constamment. Et je me souviens de Denise Filiatro qui avait monté justement je ne sais plus quelle pièce de boulevard et j'en étais. Et pour elle, on n'allait jamais assez vite. Plus vite, tout le temps. Je disais, mais Denise, il faut quand même qu'on comprenne ce qu'on dit. Ah non, vous êtes lambin. Elle n'était pas d'accord du tout. Voilà.
Alors, c'est une autre approche. Oui. Permettons maintenant une incursion dans le monde du cinéma.
Prête pour le concert de ce soir.
Le papa est fier de sa fille.
Oh, oui, oui, oui.
Tu le lui diras. J'ai tellement rêvé de jouer Cavalleria Rusticana. Quand j'étais petite, une fois par semaine, je l'écoutais avec papa. Il m'emmenait au salon. On parlait pas. On faisait juste écouter.
Et si on la jouait en duo avant de devenir trop vieux?
Thank you.
l'époque s'en mêle, le passé et le présent se soudent alors que les souvenirs s'estompent dans la tête d'Henri. Vous avez bien sûr reconnu un extrait du film Henri de Jan Irland et auquel on a ajouté l'adaptation de ce Cavaliera Rusticana de Mascagni qui était interprété ici par le ténor Fausto Tenzi qui en a fait un Ave Maria. L'Ave Maria a été, je pense, adapté par Roberto Negri. Un beau cadeau que ce film.
Oh, c'est plus qu'un cadeau, ça a été un moment de grâce dans ma vie. Remarquez qu'au tout début, quand Jan Irland m'a téléphoné, je ne savais pas qui était Jan Irland. On m'a dit, mais il est très lancé, il est animateur, il fait des rôles dans certaines séries. Alors, on s'est rencontrés et ce bonhomme-là m'a séduit immédiatement. Je dis, mon Dieu, quelle intelligence, quelle sûreté de jugement. J'ai dit, ben passe-moi ton texte et je te rappelle. Alors, je suis rentré chez moi, j'ai dévoré le texte et je me suis dit, je crois qu'il y a quelque chose à faire avec ça. En tout cas, il y a quelque chose à faire pour moi dans le rôle de Henry, c'est évident. Alors, on a fait ce film, mon Dieu, en 15 jours, je crois, et ça a été un moment de grâce. Je veux dire, j'étais heureux de jouer Henry. J'étais heureux de voir comment Jan dirigeait son équipe. Tout ce qui m'a entouré, Marie Tifo, qui faisait partie de la distribution, tout a été enchanteur pour moi. Mais à aucun moment, je crois, que ni moi, ni tous les gens qui étaient là pouvaient soupçonner que ce petit court-métrage pourrait un jour se rendre aux Oscars. Ça, personne ne pouvait l'imaginer. J'ai fait plusieurs courts-métrages, et ce sont des choses qu'on voit une fois, et ça s'oublie, ça tombe dans l'oubli. Et celui-là, non, il a eu un destin contraire.
Mais une profonde vérité dans le jeu, un film qui évoque un pan de la vie du grand-père de Jan Irland,
oui,
qui est atteint de la maladie d'Alzheimer.
Exactement.
Et vous l'avez joué avec une intensité incroyable.
Peut-être parce que j'ai vu des gens autour de moi qui étaient malades de la maladie d'Alzheimer, dont ma mère, qui en est morte d'ailleurs. Alors j'avais comme des références, si vous voulez. Oui.
Vous avez aussi été, on disait votre premier métier a été celui d'enseignant, mais vous vous êtes retrouvé, après le théâtre du Rideau Vert, enseignant à nouveau, cette fois au sein de la comédie, c'est-à-dire du conservatoire.
Conservatoire, oui.
Et vous avez enseigné à un tas de comédiens et de comédiennes qui, aujourd'hui,
font des carrières.
J'aimerais que vous écoutiez le prochain extrait qui va peut-être vous évoquer un beau souvenir.
Mais que de surprise, que de surprise!
Cher Gérard, c'est Anouk Simard. Je vais vous ramener à une époque lointaine, dans les années 70, si ma mémoire est bonne, c'est en 1974, dans la pièce Cyrano de Bergerac, à la Nouvelle Compagnie théâtrale, et Cyrano qui est interprété par Gilles Pelletier, et dans lequel vous jouiez dans les cadets de Gascogne, et moi, c'était ma première pièce lorsque je suis sortie de l'école de théâtre de Lionel Groulx. Et il y avait une trentaine d'acteurs sur scène, et dont des grands acteurs qui, pour moi, étaient comme des stars que j'avais vues quand j'étais jeune à la télé et tout. Et dont vous, j'étais très impressionnée. Et mais vous étiez tellement chaleureux, vous m'avez tellement abordé avec simplicité, tellement mis en confiance dans toute cette grosse équipe qui était sur scène et dont plusieurs, on était pour la première fois dans une production professionnelle. Ça avait été une rencontre et un moment pour moi unique. Peut-être que pour vous, ça n'a pas eu la même importance. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas comme moi, je m'en souviens. Mais ça a été vraiment une belle rencontre. J'ai toujours été en admiration pour la profondeur de votre jeu, la noblesse, la culture. Vous êtes vraiment, pour moi, parmi les plus grands acteurs de chez nous et une magnifique personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de côtoyer à l'époque. Ça s'est jamais démenti. Et je suis toujours suivi un peu ce que vous avez fait au fur et à mesure au théâtre. Pour moi, vous demeurez une personne et un acteur extraordinaire et qui aura été très important dans ma vie. Curieusement, vous venez de faire un court-métrage, Henri, dans lequel ma fille joue. Alors, vous avez joué avec ma fille, Ariane Lee. Donc, elle aussi, dans son jeune âge, a eu l'occasion de vous côtoyer dans un projet artistique et... qui elle aussi a été sous le choc. Alors, écoutez, je vous souhaite plein de santé, je vous souhaite plein d'autres rôles et j'espère peut-être un jour qu'on va pouvoir se croiser dans un projet artistique, j'espérerais, bien sûr. Alors, je vous embrasse très fort, je vous serre dans mes bras et voilà, au plaisir.
Merci, merci chère Anouk, ça me touche énormément tout ce que tu as dit et... Ça me permet de dire une chose que je ne voudrais pas manquer de dire. Je suis très intéressé par les jeunes comédiens. Et j'estime qu'à l'heure actuelle, au Québec, il y a des jeunes comédiens excellents. Je vais au théâtre parfois et je fais des découvertes qui me bouleversent. Les jeunes comédiens du Québec sont... très souvent à l'avant-garde, je dirais, du jeu. Et c'est très bon. Et j'espère, comme toi, que nous aurons l'occasion de nous revoir dans une production quelque part. Ce serait tellement agréable, n'est-ce pas? Merci encore une fois, je t'embrasse.
Est-ce que cette conscience d'avoir été un modèle pour des jeunes, non seulement par la fonction d'enseignant, mais le fait de les avoir côtoyés sur scène, ces jeunes qui vous regardaient aussi et qui, voyant un acteur qui a beaucoup d'années d'expérience, être à leur côté, devient soudainement comme la référence.
Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas cette conscience-là. J'ai conscience que des acteurs chevronnés ont un rôle à jouer auprès des plus jeunes. C'est un art qui se transmet, comme tous les autres arts aussi. Donc, si on peut aider d'une manière ou d'une autre, moi, c'est un bonheur. J'ai aidé, il n'y a pas tellement longtemps, une comédienne... qui a bonne réputation, mais qui me disait, je suis toujours à bout de souffle. J'ai dit, oui, tu ne sais pas respirer. Alors je lui ai donné des exercices à faire, et puis je l'ai revue par la suite, elle a dit, vous m'avez sauvé la vie.
Alors prenons le temps de respirer, terminons ce premier bloc avec un air de Verdi, Rigoletto, extrait de l'acte 4 de l'opéra Rigoletto, La Donna Immobile, et chanté par cette grande voix québécoise malheureusement disparue, celle de Richard Verrault. Je précise que l'orchestre symphonique, c'est celui de Turin, et à la barre de cet orchestre, le grand maître Wilfrid Pelletier.
Qual piuma al vento muto l'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso in pianto un riso manzoniero la donna amabile qual piuma al vento muto l'accento pensier di pensier di pensier est sempre misero chi a lei s'affida, chi ne confida, mal cota ne come, ormai non sentesi felice a pieno, chi su quale seno non libra amore. La donna è mattil, quattro malvento, mutare cento e di pensier. E di pensier.